Jesus Christus.
Accrochez-vous à l'espérance, l'appel du pape soit lors de l'ouverture de la deuxième porte sainte hier, celle symboliquement installée au cœur d'une prison romaine. Mais comment regarder vers l'avenir quand on est enfermé? Le témoignage d'un aumônier de prison en début de ce journal. 2 mois de manifestations sans interruption en Serbie après l'effondrement meurtrier du toit de la gare de Novi Sad au nord du pays. La contestation monte d'un cran ces derniers jours. Les étudiants entament un blocage des universités. Vent d'optimisme sur l'économie syrienne éprouvée par 13 ans de guerre après la réinsertion du dollar américain jusqu'alors strictement réservé aux sociétés proches du régime Assad. Reportage à suivre. Et puis une première base militaire française rétrocédée au Tchad. La suspension de l'accord militaire entre N'Djamena et Paris se concrétise.
Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
Bonjour à tous. L'Église universelle est entrée dans une année de grâce, de renouveau et d'espérance. Le coup d'envoi du jubilé 2025 a été donné par l'ouverture de la porte sainte de Saint-Pierre la nuit de Noël. Une autre porte sainte a été ouverte par le pape François hier matin dans une prison romaine, devenue le temps d'une matinée, une cathédrale de la douleur et de l'espérance. Cette porte symbolique invite les prisonniers du monde entier à regarder l'avenir avec espérance. Une vertu chrétienne qu'on associe rarement au milieu carcéral, mais qui est pourtant essentiel, explique Bernard Biette, aumônier laïque officiant à la maison d'arrêt de Sarreguemines dans l'est de la France. On l'écoute.
Pour moi, l'espérance, c'est venir au nom ou avec et à côté de Jésus dans une cellule, dire à nos frères en détention que Dieu est avec eux, que Dieu ne les a pas abandonnés malgré la faute qu'ils ont faite. Et je pense que le rôle de l'aumônier, c'est de leur apporter cette certitude qu'ils restent aimés de Dieu. Je pense que l'espérance, elle est là. C'est leur donner cet espoir, cette espérance-là, que Dieu les aime, autant que nous qui venons les voir.
Est-ce que le fait de parler d'espérance, c'est aussi une manière de les amener sur le chemin de la rédemption, aussi bien du point de vue spirituel que du point de vue social ?
C'est les deux, puisque en prison, ils ne voient que des professionnels de la justice. Nous, nous sommes des bénévoles et nous ne sommes là que pour leur montrer que dehors, il y a aussi des gens qui pensent à eux et il y en a sans doute d'autres qui leur veulent encore du bien. Donc, ça participe à l'idée de réinsertion dans la société, en leur montrant que dehors, tout le monde n'est pas contre eux. Je pense que s'il y a ces deux aspects-là.
Des propos recueillis par Xavier Sartre. Une version plus longue de cet entretien est à retrouver sur notre site internet vaticannews.va. Et puis la troisième porte sainte sera ouverte ce dimanche 29 décembre dans la basilique Saint-Jean de Latran. C'était il y a 2 mois, le pape envoyait un télégramme au président serbe exprimant sa solidarité et ses prières pour les victimes de l'effondrement d'un toit extérieur de la gare de Novi Sad dans le nord de la Serbie. Depuis ce tragique incident où 15 personnes ont perdu la vie, la colère de la population gronde. Elle accuse le gouvernement de corruption et de négligence. Après de nombreuses manifestations étudiantes à Novi Sad et à Belgrade, les étudiants ont entamé un blocage des universités. À Belgrade, Laurent Ruiz.
Une soixantaine de facultés sont occupées par les étudiants dans toutes les grandes villes de Serbie. Ils organisent aussi des blocages de carrefour de 15 minutes chaque jour à 11h52. C'est l'heure à laquelle, le 1er novembre, le auvent de la gare tout juste rénovée de Novi Sad, la deuxième ville du pays, s'était effondré sur les passagers, faisant 15 victimes. Une grande partie de la population a vu dans cet accident la preuve que les travaux publics sont attribués sur des critères politiques, au mépris de toute règle de sécurité. C'est ce rejet de la corruption, une des marques du régime populiste du président Aleksandar Vučić, qui mobilise dans la société serbe. De nombreux lycées, puis les syndicats d'enseignants se sont solidarisés, de même que les travailleurs d'une importante mine de charbon, les comédiens du Théâtre national et une partie des agriculteurs. La semaine dernière, les étudiants rassemblaient plusieurs dizaines de milliers de personnes au cours d'une manifestation considérée comme la plus grande depuis la chute de Milosevic en 2000. En face, le régime ne parvient pas à désamorcer la crise. Il a tenté de stopper le mouvement en avançant les dates des vacances scolaires et en promettant aux étudiants des prêts immobiliers subventionnés. Sans résultat. Laurent Rouy, Belgrade, Radio Vatican.
38 personnes ont perdu la vie dans un crash d'avion de la compagnie Azerbaïdjan Airlines ce mercredi. L'avion partait de Bakou pour se rendre à Grozny, capitale de la République caucasienne russe de Tchétchénie. Il s'est écrasé, a pris feu dans des circonstances encore floues. De nombreux médias mettent en cause un missile de la défense anti-aérienne russe. L'agence russe de l'aviation civile affirme de son côté que des drones ukrainiens attaquaient la ville de Grozny le jour du crash. La Russie également soupçonnée en mer Baltique après la panne d'un câble sous-marin électrique reliant la Finlande à l'Estonie. Helsinki soupçonne un pétrolier en provenance d'un port russe de sabotage. Le chef de l'OTAN a annoncé ce vendredi renforcer ainsi sa présence en mer Baltique. En Ukraine, pas de trêve de Noël. Les combats entre soldats russes et ukrainiens se poursuivent dans l'oblast de Donetsk, dans l'est du pays. L'état-major des forces armées ukrainiennes rapporte que 171 affrontements ont eu lieu lors des dernières 24 heures dans les secteurs de Kourakov et de Pokorovsk. Malgré les bombardements continus, la messe de Noël a été célébrée dans la cathédrale latine de Kharkiv en présence du nonce apostolique et de l'aumônier du pape, le cardinal Konrad Krajewski. La lumière de Noël est une lumière si intense et si grande qu'elle s'élève au-dessus de toutes les difficultés, a déclaré le nonce apostolique d'Ukraine. Pour la deuxième année consécutive, l'église gréco-catholique ukrainienne et l'église orthodoxe d'Ukraine ont célébré Noël ensemble le 25 décembre. Les nouvelles autorités en Syrie ont arrêté hier un dirigeant du pouvoir déchu de Bachar al-Assad, considéré comme responsable de nombreuses condamnations à mort dans la tristement célèbre prison de Saïdnaya, près de Damas. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Depuis la chute du régime, la situation économique semble désormais s'améliorer en Syrie. Le commerce des devises étrangères, notamment du dollar américain, était jusqu'alors strictement interdit et réservé aux société proche d'Assad. Aujourd'hui, les échanges en dollars sont de nouveau permis et s'accompagnent d'un allègement des prix des biens et des services. Reportage signé Mohamed Erami.
Dans une petite épicerie animée du centre de Damas, Amer Saad, le propriétaire, accueille ses clients avec un large sourire. Sur son comptoir, des billes en livres syriennes côtoient désormais des dollars américains.
Tous les Syriens ont ressenti un grand soulagement, grâce à Dieu, car nous étions sous pression et nous ne pouvions même pas mentionner le dollar. Avant le départ d'Assad, parler du dollar, même au téléphone, pouvait entraîner une peine de prison de 7 ou 8 ans. Maintenant, nous sommes vraiment soulagés et très heureux.
Les bureaux de change officiels, eux aussi, ont repris leurs activités à travers la ville. Derrière l'un des employés, des écrans affichent en temps réel le taux actuel. Un dollar vaut environ 15 000 livres syriennes. Amer, employé dans l'établissement, confirme.
C'est une nouvelle forme de libération pour nous, d'autant plus que la majorité des travailleurs dans le domaine du change ont été arrêtés et interrogés. Personnellement, j'ai été arrêté, une affaire financière a été montée contre moi pour seulement 100 dollars.
Selon les experts, cette réouverture du marché des devises pourrait stabiliser les prix et redonner confiance aux consommateurs. Un changement salué par la population qui voit là une lueur d'espoir pour l'économie locale.
Reportage de Mohamed Erami. La France a rétrocédé jeudi une première base militaire au Tchad, à Faya, dans l'extrême nord désertique du pays. Moins d'un mois après l'annonce surprise de la suspension par N'Djamena de l'accord militaire avec Paris, l'un des nombreux faits marquants politiques de cette année pour le pays d'Afrique centrale. Rétrospective d'Abba André Dieudonné à N'Djamena.
Élu président de la République le 6 mai 2024 pour un mandat de 5 ans, l'héritier du trône Mahamat Idriss Déby Itno s'est vu élevé à la dignité de maréchal du Tchad par le parlement provisoire composé en majorité des caciques du parti de son défunt père. Une élection contestée par son principal opposant Dr Succès Masra qui revendique toujours la victoire. Le 9 mai, jour de la proclamation des résultats bien que provisoires, des tirs de joie qualifiés d'intimidation par l'opposition qui s'apprêtait à manifester contre ces résultats ont fait une dizaine de morts. Autre fin marquant, c'est aussi la rupture de coopération militaire avec la France. 66 ans après la proclamation de la République, les autorités de N'Djamena brandissent la souveraineté nationale, estimant que cet accord n'apporte aucune valeur ajoutée réelle sur le terrain militaire où l'armée tchadienne faisait face seule à des défis variés et sérieux, notamment des attaques à des dimensions terroristes. Dernier élément politique marquant l'année qui s'achève, c'est aussi l'organisation pour la première fois au Tchad de trois élections le même jour. Les législatives, les communales et les provinciales se dimanche 29 décembre 2024. Élection à sens unique puisque tirant les leçons de la non-transparence de la dernière élection présidentielle, l'opposition démocratique dans son ensemble refuse d'y participer. Abba André Dieudonné Ndjamena pour Radio Vatican.
Merci pour votre écoute. Prochain journal à 18h heure de Rome, ce sera avec Delphine Allaire. D'ici là, bel après-midi à toutes et à tous.